nous allons nous entretenir à deux reprises avec mon collègue Jérémy Filosa ce soir, que j'accueille à l'instant même avec du matériel tout chaud, du matériel exclusif à la suite de sa visite à l'organisation des Rays de Tampa Bay. Bonsoir Jérémy.
Salut Mario.
Donc, tu as pu quand même, et on va publier, c'est-à-dire on va diffuser les entrevues complètes en début de semaine prochaine, mais informe-nous de ce que tu as appris quand même d'important dans le projet de garde partagée de nouveau stade à Montréal aujourd'hui.
Oui, écoute, ben, premièrement, ce qui est arrivé, c'est que mercredi matin, je me présente à l'aéroport pour quitter en direction de Tampa et je croise William Yeager. William Yeager, qui travaille pour Ernst & Young, c'est le bras droit de Steven Bronfman dans le dossier du retour des Expos. Alors, je commence à discuter avec lui. Il dit, écoute, ça donne que je prends ce vol-là régulièrement. Il dit, je fais des allers-retours Tampa-Montréal depuis déjà plusieurs mois. J'ai dit, bon, ben écoute, c'est intéressant. J'ai dit, est-ce qu'il serait possible de venir te rencontrer au bureau des Rays avec une des personnes influentes chez les Rays? Il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais te présenter Brian Hald, qui est le co-président des Rays de Tampa. Alors, j'ai dit, ben écoute, c'est parfait. Donc, j'arrive au Tropicana Field et en passant, près d'une salle de conférence, je vois William Yeager assis autour de la table avec toutes les têtes dirigeantes des Rays en train de discuter, bien sûr, du dossier de la garde partagée. Et là, je me suis dit, écoute, si ce gars-là fait des allers-retours depuis des mois, il est dans les bureaux des Rays en train de discuter de cette garde partagée, ça commence à devenir du sérieux, là, on s'entend là-dessus. Il vient pas ici pour rien. Alors, on a fait une belle entrevue qui dure une vingtaine de minutes, qu'on va diffuser au début de la semaine prochaine. Une des premières choses auxquelles j'ai voulu discuter avec William Yeager, c'est premièrement la construction des deux stades et comment on va faire pour convaincre les gouvernements d'embarquer dans ce projet-là pour des équipes à temps partiel. Et c'est là qu'il a commencé à me parler de la possibilité d'un stade où il y aurait plusieurs équipes qui évolueraient dedans. Et ce serait probablement la même chose ici à Tampa avec les Rays et les Rowdies, l'équipe de soccer de Tampa. Donc, écoutons William Yeager sur cette possibilité.
Notre vision pour Montréal, c'est également une infrastructure qui va être en usage 12 mois par année.
Oui.
Même si on parle seulement de 40 à 50 matchs de baseball à Montréal, c'est certain que même si c'est un stade à ciel ouvert, ça va vraiment être quelque chose qu'on envisage pour un usage de 12 mois par année, soit pour une festival de Noël, soit pour une match à l'extérieur des Canadiens, peut-être même accueillir les autres équipes professionnelles.
Les Alouettes et l'Impact, peut-être s'il y a de l'intérêt ou quelque chose comme ça.
C'est certain qu'il va y avoir des conversations à cet égard.
Donc, ça devient de plus en plus concret. On avait évoqué de telles possibilités, mais là, ça vient, je dirais pas de la bouche du cheval, mais très, très proche de Steven Bronfman, comme tu l'as précisé. Et donne-moi en plus également tout de suite sur ce que ça a donné ton entrevue avec le président des Rays. Ça aussi, là, ça devient plus clair comment on voit une garde partagée, quelle forme ça prendrait à bien des niveaux, Jérémy.
Ben oui, parce que je lui ai dit, comment vous allez faire pour convaincre des gens dans deux marchés d'embarquer dans une équipe qui ne leur appartient pas à 100%? J'ai dit, par exemple, les matchs éliminatoires auront lieu où? À Montréal ou à Tampa? On écoute sa réponse.
I would tell our fans two things. First, the playoffs are going to be split evenly. Promise, we're going to get that done. Secondly, we've got a pretty good track record here. We've won the fifth most games since 2008 in all of Major League Baseball. 90 wins, 7 times. Dodgers, Yankees, Red Sox are the only teams to have done the same. We're going to win games. We're going to run our operation well. We've got the best farm system in the league with the lowest payroll as is. You're going to have, as most people consume our product, every single game on television and the radio, right? The
world, French and English?
French and English, absolutely.
Je laisse traduire rapidement, Jérémy.
Ben alors, premièrement, il a dit, on vous promet, et c'est déjà décidé, que les matchs éliminatoires vont être partagés équitablement entre Montréal et Tampa. Et il dit, on va s'assurer que tous les matchs de l'équipe soient transmis à la radio et à la télévision en anglais et en français. Il m'a parlé à l'extérieur de cet extrait, il m'a dit, on va s'assurer que les médias de Montréal francophones puissent venir ici couvrir tous les matchs. J'ai dit, écoute, ça risque d'être pas mal dispendieux, mais lui, il semble confiant que les médias vont embarquer là, dans cette aventure-là.
C'est la première fois là, que publiquement, un représentant, outre M. Stonberg puis le baseball majeur, que le président des Rays prend la parole là-dessus. M. Yeager, je crois que c'est une des premières fois, ou sinon la première fois, que je l'entends évoquer les scénarios envisagés. Donc, ça veut dire qu'on est prêt là, à avancer puis à transformer ça, ou c'est-à-dire être plus transparent puis à inclure puis à intégrer le public dans la réflexion puis dans la démarche, là, en terminant, Jérémy. Ouais.
Oui, absolument. Puis la prochaine étape, là, ça va être bien sûr les consultations publiques dont on va dévoiler du côté de la Ville de Montréal au cours des prochaines semaines. Et William Yeager nous a quand même expliqué que c'est un moment important parce que si les consultations, dans les consultations, on ne suggère pas la construction d'un stade au Bas-Saint-Pil, on va avoir un problème, là. Mais lui semble très confiant qu'ils en ont suffisamment fait pour convaincre les gens autour de la table que c'était une bonne idée et que ça devrait être recommandé.
En quelques secondes, on va parler beaucoup de l'impact plus tard à l'émission. Puis, est-ce que tu as déjà des sons de cloche du côté de l'impact s'il y aurait de l'intérêt pour un déménagement? Parce que le stade Saputo, c'est pas bien ben vieux, Jérémy.
Non, c'est pas vieux. Par contre, on sait qu'on voit ce qui se passe ailleurs dans la MLS, les stades ultra-modernes et où on s'en va. Et c'est à se poser la question, est-ce que le stade Saputo va être longtemps assez moderne pour supporter une équipe de la MLS. Moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est certain que si M. Bronfman lève le téléphone et appelle Joey Saputo, il va écouter. Kevin Gilmore m'a déjà dit qu'ils ont eu des discussions dans une soirée comme ça, à bâton rompu. Ils se sont déjà échangés des idées, mais rien de concret qui a été négocié là-dessus. Mais Joey Saputo, présentement, est en grande réflexion par rapport à qu'est-ce qu'il fait avec son stade Saputo. Est-ce qu'il va investir dans un terrain chauffant? Est-ce qu'il va investir dans un nouveau toit, des sièges chauffants et tout cela? S'il décide que finalement, ben, il ne reste pas là et il s'en va ailleurs, on est à la croisée des chemins. Le stade de baseball pourrait être construit d'ici quelques années. La décision doit être prise très bientôt. Et eux, soit dit en passant, ils sont convaincus qu'avec une architecture moderne, on peut bâtir un stade qui serait facilement convertissable soit en soccer ou même football pour les Alouettes et aussi pour du baseball.
On verra donc la suite, Jérémy. Je te donne rendez-vous aux environs de 20 heures alors qu'on va parler de l'impact davantage et revenir sommairement sur ce que tu viens de nous dévoiler, de nous apprendre. Bravo, merci beaucoup, Jérémy. À plus tard.
Ça fait plaisir. Salut.
Merci. Bye bye. Et Guy s'en vient avec les nouvelles. Ensuite de quoi, ben notre spécial aux environs de 60 minutes autour d'Alexis Lafrenière, avec Alexis Lafrenière. Une entrevue avec Alexis. On va apprendre à mieux le connaître, je pense, au cours de la prochaine heure. Puis on va apprendre peut-être aussi qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pas juste de sa bouche, parce que lui a un discours quand même assez réservé, Alexis, malgré toute sa générosité. Là. Et Vincent Lacavalier va se rappeler comment il a vécu ça, lui, l'année de son repêchage en 98. Au cours de la prochaine heure, notamment. Revenez-nous tout de suite.